Merci. Allez, on enchaîne.
Je vous propose d'enchaîner. La deuxième partie va être, je crois, un peu moins longue, mais on pourra s'arrêter pour des questions aussi. Alors, donc la recherche. Je viens de montrer une slide, donc on disait qu'il y a eu pas mal d'échecs au début, mais finalement, on a tiré des enseignements de ces échecs et de ces demi-succès. Et les conditions, il y a trois conditions pour réussir cette recherche, c'est d'identifier les bons patients. Avec l'arrivée des biomarqueurs, je crois qu'on a coché cette case, on a répondu à cette case, on a maintenant des essais cliniques où on a des critères biologiques, clinico-biologiques d'inclusion, et donc on peut tester les produits chez les bons patients. Deuxièmement, avoir les bons produits. Je vais y revenir dans une seconde. Tous les produits ne sont pas équivalents en un mot. Et il faut traiter au bon moment. Et ça sera un petit peu plus développé. Alors, avoir les bons produits, je ne vais pas m'étendre sur cette slide, juste pour dire que dans tous les anticorps monoclonaux, les produits immunothérapie, les anticorps qui vont être s'accrocher à la plage et permettre aux cellules immunologiques du cerveau de digérer la plaque, il y en a plusieurs, ils n'ont pas la même cible, certains ne visent pas la même partie du peptide, cette courte chaîne d'acide aminé. Il y a plusieurs cibles, comme vous le voyez en bas, et en haut, vous voyez qu'en fait, au départ, on a un fragment de peptide qui s'agglomère avec un autre, puis un autre, puis un autre, puis développe les plaques, et là aussi, les produits testés ont plus ou moins d'affinité pour l'une ou l'autre de cette forme, simple ou agrégée ou très agrégée. Donc, des produits différents. Donc, ce n'est pas parce qu'un produit échoue qu'il faut considérer que tous vont échouer. C'est quand même une demi-bonne nouvelle. Traitement trop tardif. Alors, les premiers essais, on les faisait chez des patients déjà dépendants ou en fin de troubles cognitifs légers. Donc, dans cette zone que j'ai encadrée en rouge. Et il va de soi que si vous voulez traiter un patient et qu'il en ait un bénéfice, il ne faut pas attendre qu'il soit trop malade. Parce que même si vous arrêtez le traitement, si vous arrêtez le développement de la maladie à un stade où le cerveau est déjà très atrophique, c'est la figure de droite par rapport à la figure de gauche qui est un cerveau normal, le bénéfice ne sera pas considérable. Vous laisserez un patient, certes, peut-être stable dans le meilleur des cas, mais dans un état déjà très avancé et il n'y aura pas un grand bénéfice ni pour lui ni pour son entourage. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, plus vous attendez, plus la maladie va se complexifier. Parce qu'entre le simple dépôt d'amylie, les simples explosions du taux, il se passe beaucoup plus de choses. L'inflammation, qui au départ peut-être essaie de lutter contre la maladie, va un peu se retourner, créer une espèce de réaction inflammatoire toxique qui va elle-même abîmer les neurones et empêcher leur préservation. Les troubles de la barrière sans cerveau, j'en ai parlé. Enfin, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui se surajoutent quand le temps passe et il va être de plus en plus difficile que de gérer les choses. C'est comme un incendie. Au départ, si vous avez un petit feu de bois qui s'éteint un petit peu sur l'herbe, vous percez un tuyau d'arrosage, ça se passe bien. Si vous attendez trop, ça va être plus compliqué. Il faudra les pompiers, voire les canadaires pour résoudre la question. Donc, déplacer la courbe des inclusions vers la gauche, ça paraît une bonne idée. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a eu le premier succès, c'est quand on s'est déplacé plus vers le trouble cognitif léger et les démences débutantes, c'est-à-dire le début de la dépendance, mais pas des stades trop avancés. Et ça a payé. Ça a payé parce que donc il y a eu trois produits qui ont montré que, évidemment, ils permettaient de réduire la plaque. Vous voyez que là, c'est une courbe, l'essai clinique 18 mois, et la mesure, une mesure du volume des plaques, eh bien, les trois produits sont capables de réduire le volume des plaques. Mais surtout, je ne parle pas du premier parce que le développement clinique était un peu bancal et finalement ce produit a été enregistré puis retiré du marché aux États-Unis. Lecanemab et donanemab ont tous les deux montré une efficacité clinique. L'efficacité clinique, ça se traduit par le fait que les deux courbes s'écartent. Vous voyez, il y a un traitement en vert, un placebo en noir. Le placebo se dégrade plus vite que les patients traités. Néanmoins, les patients traités, évidemment, se dégradent quand même. Ce n'est pas encore le traitement qui stoppe la maladie. Mais c'est la première fois qu'on a été capable de montrer un effet clinique, un bénéfice lié au traitement direct des plaques amyloïdes. Mais ces effets indésirables existent. C'est des effets indésirables qui sont sérieux. Ils sont assez fréquents, mais dans des formes légères. Ils sont rares, heureusement, dans les formes graves. Néanmoins, c'est à prendre au sérieux Et ça pèse dans la balance. Il y a le bénéfice d'un côté, le risque, et le risque, il faut prendre en compte. Alors, revenons au bénéfice. Le bénéfice, est-ce qu'il est suffisant? Alors là, il y a un grand débat, parce que on est dit qu'a priori, on attendait un bénéfice ici. Là, on fait une synthèse de toutes les maladies, ça a été fait par Nicolas Villain, hein, qui est dans sa pétrière, et puis d'autres collaborateurs, bien sûr. Et au départ, on attendait un bénéfice dans l'absolu à ce niveau-là. Or, quand on fait la synthèse de tous ces essais de ces deux produits, on voit qu'on est plutôt ici. Donc, un effet un petit peu en dessous de ce qu'on est estimé comme étant cliniquement pertinent. Idem pour une autre échelle, il y a deux échelles d'efficacité, si vous voulez. On voulait être là, on est là. Donc, évidemment, petite déception. Côté positif, on a enfin mis en leader quelque chose qui est statistiquement prouvé, donc il se passe vraiment quelque chose, mais un effet un peu moindre de celui qu'on espérait obtenir avec ces traitements qui nettoient la plaque. Ils nettoient réellement la plaque, hein. C'est pas une vision de l'esprit, c'est vraiment quelque chose d'efficace. Le bénéfice, un peu entre les deux. Alors, les points positifs. Point positif, alors ça, c'est une extension de la maladie, des études. Avec le lecanemab, il y a une interruption du produit, puis une reprise. C'est-à-dire que souvent, dans l'essai clinique, il y a un groupe placebo qui reçoit un produit neutre, mais qui ressemble à l'autre, et puis un produit actif. Et on compare. Et puis après, pour donner une chance aux malades qui ont signé pour prendre le produit, s'il marche, on leur propose de rentrer aussi sous produit actif pendant une autre période. Et là, on voit que se passe-t-il? Eh bien, les patients qui n'avaient pas reçu, là, c'est une aggravation. Eh bien, les patients qui n'ont pas reçu, ils ne rattrapent jamais les autres. Ils sont toujours avec un déficit supérieur. Je parlais tout à l'heure d'un traitement symptomatique. Un traitement symptomatique, vous l'arrêtez, l'effet disparaît. Vous le reprenez, l'effet revient. Ici, on a l'impression que finalement, les patients qui ont reçu plus tôt le traitement, ils restent toujours meilleurs que les autres. Et ça prouve qu'on a vraiment un effet sur le cours de la maladie. Avec l'autre produit, le donanemab, ils ont fait une analyse aussi. Alors là, c'est un modèle. Donc, il faut le prendre comme il est. C'est une analyse rétrospective où ils ont regardé les données et ils ont dit, si on extrapole, voilà ce qu'on espère voir. Et ils ont extrapolé les données sur une durée plus longue. Et c'est les statisticiens qui ont fait ça. En disant, comparons les patients qui ont reçu le traitement à un stade moins avancé, parce qu'ils étaient plutôt dans la phase la plus précoce de la maladie, et des patients qui l'ont reçu plus tard. Et ils voient que les courbes sont très différentes. Ceux qui ont reçu le traitement plus tôt, à un stade moins avancé de la maladie, ils ont un bénéfice qu'on extrapole beaucoup plus important que ceux qui l'ont reçu à un stade avancé de la maladie. Et si on considère, ici c'est une échelle, bon peu importe son nom, mais si on considère que le seuil d'autonomie est là, eh bien, le laboratoire nous dit, si on prend les patients les plus légers, à long terme, on a 37 mois de plus d'autonomie. Là, si c'est vrai, ça montrerait que ces traitements valent la peine d'être pris. Après, il y a le rapport, il y a le coût, il y a plein de choses à considérer. Mais enfin, voilà. Il y a des éléments qui laissent espérer, aujourd'hui, ce n'est pas prouvé, laissent espérer un bénéfice à long terme qui n'est pas encore démontré parce que l'étude sur 18 mois. Sur une maladie qui s'est développée depuis 20 ans, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, bah, on est quand même très, très peu armé pour montrer un effet spectaculaire. Donc peut-être qu'il faut un peu de patience. Très justement, certains disent, bah, oui, il faut de la patience, mais c'est au labo de montrer les données, ce n'est pas à nous de prendre le risque de traiter les patients. Donc voilà un petit peu le raisonnement de l'Agence européenne qui, alors que les produits ont été approuvés aux États-Unis, j'ai supprimé la lecanemab parce que c'était un premier produit accepté aux États-Unis, mais avec un développement qui a été bancal, une grosse querelle après, quand les autorités administratives américaines l'ont accepté, parce que justement, c'est le comité consultatif avait été contre, enfin un pataquès incroyable. Résultat, maintenant, ce produit est mis sous le boisseau et on l'oublie. Il y a deux produits qui sont acceptés par la FDA, qui sont sur le marché aux États-Unis, qui démarrent et qui ont l'air de rendre service, ils sont prescrits en tout cas. Mais ils ont été refusés par l'Agence européenne. Enfin, pas vraiment. Le premier, lecanemab, a été refusé par l'Agence européenne. Ça a été publié cet été, hein, si je me souviens bien, sur justement la notion que le bénéfice-risque n'était pas acceptable. De leur point de vue, le risque est trop grand par rapport au bénéfice. Il y a un appel en cours, la messe n'est pas dite, on verra ce qu'il en sort. Beaucoup d'experts français sont derrière pour dire non, non, il faut y aller. On verra. Ça se joue au niveau européen de toute façon parce que ces produits biologiques sont gérés au niveau européen. Le donanemab, il est autorisé par la FDA. À ma connaissance, il est encore examiné par l'agence européenne. Je pense qu'ils seront plus prudents dans les indications revendiquées. Peut-être ont-ils une chance de passer. Parce que quand je parle d'indications revendiquées, c'est qu'il faut effectivement des précautions. On connaît, et ça c'est un point positif aussi, on connaît maintenant les facteurs de risque de complications édémateuses ou d'assainissement. Donc si on évite ces facteurs de risque, peut-être qu'il y a une sous-population, petite, mais qui mériterait de recevoir le traitement et qui pourrait en bénéficier. Beaucoup de discussions difficiles, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise. Je pense que tout est... Cette prudence, c'est peut-être de bonne aloi. C'est triste, évidemment, pour les familles qui espéraient beaucoup. Et vraiment, la communauté des prescripteurs était prête à démarrer. C'était organisé pour ça. Pour l'instant, c'est suspendu. Bon, un petit mot sur le traitement du tau. Tau, alors, tau, c'est pas la lettre grecque par rapport à bêta. Hein, c'est tubuline associated unit. C'est donc ce produit, cette protéine qui sert à la carcasse de ce neurone et de ce long tronc qui permet à ce câble de véhiculer le signal, comme j'en ai parlé, comme je l'ai dit au début. Alors là, il y a plusieurs molécules qui sont en test, plusieurs anticorps qui sont en test. Le même principe, c'est des anticorps qui vont se fixer et permettre aux molécules immunitaires du cerveau d'aller grignoter les accumulations de protéines anormales. Pour l'instant, pas de signal encore très positif, encore que j'ai pu suivre en ligne la semaine dernière un congrès qui se passait à Madrid. Et il y a eu une publication du laboratoire UCB sur un nouveau antitau, un nouvel anticorps. Une étude pas positive, mais des signaux positifs sur la biologie, sur le critère secondaire, qui ne sont pas inintéressants à prendre en compte. Et peut-être que justement, ils ont trouvé au moins le bon site sur lequel agir. Je vous expliquais qu'il y avait différents sites et que toutes les molécules ne sont pas identiques. Là, avec la molécule antitau, il y a eu beaucoup d'échecs. Là, ils ont essayé un site différent et il y a un petit signal. Donc peut-être une piste intéressante à suivre. Il va se passer quelque chose. Là aussi, on avance. Alors, question, évidemment, faut-il encore aller plus tôt, c'est-à-dire avant même tout signe chez les patients symptomatiques? Ça, c'est une question difficile. Elle n'est pas encore tranchée. Il y a une étude A4 qui a été négative avec un produit, mais c'était justement un de ces fameux produits qui ne traitait pas le bon site. Donc, la question est ouverte. Peut-être que ce sera pertinent un jour d'aller chercher ces patients avant même qu'ils développent les atteintes cognitives, avec même qu'il n'y ait pas de symptômes. Bon, on n'a pas encore d'éléments pour le dire. On a parlé de ces fameuses formes génétiques autosomiques dominantes, c'est-à-dire donc liées à un chromosome, à des mutations sur un gène qui font que la maladie est inéluctable si on hérite de la mauvaise mutation. Là, il y a des familles, donc on connaît. Il y a les essais cliniques en cours dans ces familles. Et peut-être qu'on peut... la situation est telle qu'on peut savoir s'ils vont développer la maladie à 40 ans et donc les traiter à 30 ou 20 ans. Et donc, peut-être faire une démonstration. Il faut beaucoup de patience pour que ces études donnent un résultat, évidemment. Et la nouvelle frontière, c'est probablement une évaluation du risque individuel et des actions de prévention. Alors, on a des outils pour ça. On a parlé des prélèvements sanguins, qui permettront, encore une fois, moi on vous dit, dans un cadre médicalisé, hein, c'est pas question d'aller à un laboratoire ou d'acheter sur internet un kit pour se faire le dosage, il faudra que ce soit géré médicalement. Et on possède aussi, de plus en plus on développe des applications sur les téléphones, sur les smartphones, qui permettent de délivrer une évaluation des capacités cognitives d'un individu pour voir si oui ou non il semble qu'il y ait des petits signaux qui inciterait à aller plus loin. Alors le schéma qu'on pourrait imaginer, c'est justement, comme vous le disiez madame tout à l'heure, proposer aux généralistes des outils, peut-être l'accès justement à ces plateformes numériques, peut-être même un accès, s'il y a un petit signal, à une biologie sanguine, et si le signal se confirme, si le signal ne se confirme pas, bon, on revoit le patient plus tard, pas de problème, s'il se confirme, on l'adresse au CMRR, qui ne seront plus encombrés par des malades qui n'ont pas la pathologie, mais qui auront déjà des patients beaucoup plus à risque, identifiés comme tels en tout cas, et qui pourront aller plus loin dans le diagnostic et dans la prise en charge. Mais ça on n'en est pas encore là. Et puis le message ultime, bien sûr, c'est protéger son cerveau. Olivier de la Doucette en a parlé, 45% du risque de maladie d'Alzheimer sont dues à des facteurs de risque modifiables. J'ai parlé d'hypertension artérielle. Alors, c'est dans le jeune âge d'abord, plus vous aurez activé votre cerveau tôt, plus vous aurez développé de synapses, ces fameuses communications entre neurones, plus vous aurez de réseaux riches, plus vous serez protégé parce que vous avez des redondances, vous avez beaucoup de richesses de communication. Et donc, ce cerveau, bah, s'il y a un peu de destruction, il résistera mieux. Prévention cardiovasculaire, parce que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie en soi, mais il y a une anomalie de la barrière sans cerveau et il y a une synergie, une alliance nocive entre la pathologie vasculaire et la pathologie Alzheimer. Les destructions s'accumulent et elles contribuent au déficit cognitif. Et beaucoup de patients atteints de maladie d'Alzheimer tardive, au-delà de 70 ans, 75 ans, ont aussi des vaisseaux âgés. Et donc, protéger ces vaisseaux, c'est aussi se protéger, se défendre contre la démence. Donc, tout ce qui va avec, exercice physique, et bien sûr, stimulation cognitive maintenue, curiosité maintenue, échange culturel, échange avec les amis, les voisins, activité sociale, activité intellectuelle, tout ça, c'est des facteurs qui vont protéger contre la maladie. Je ne m'étends pas là-dessus, comme Olivier de la Lucette vous l'a dit, il y a un excellent livre qui est à votre disposition à la sortie.
Absolument.
Et oui. Avec tout ça, ben voilà. Donc on sait qu'il faut traiter tôt, on a des marqueurs précoces, on a des outils. On a confirmé la piste amyloïde, quand même, il faut le dire, parce que longtemps, ça a été contesté. On disait que c'est des milliards qui ont été déversés dans cette piste sans résultat. Si, il y a des résultats. Ce n'est pas encore parfait, mais on a vraiment marqué un cran. Il y a eu, si c'est un match de boxe, il y a eu vraiment un coup porté à Alzheimer. Et il n'est pas encore KO, mais voilà, il s'est passé quelque chose. Il a marqué un point. L'enregistrement en Europe, c'est en suspens. La cause n'est pas perdue. Bon, l'attitude des agences est décevante, mais... C'est leur rôle aussi de ne pas non plus aller trop vite. Hein. Le diagnostic plus précoce a permis ses progrès. Il faut continuer la recherche, bien sûr, sur les anti-amyloïdes, mais aussi les antitaux, et puis d'autres pistes. Hein. Les cellules inflammatoires immunitaires du cerveau sont une piste. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dessus. Est-ce qu'il faut développer des cliniques du risque pour évaluer le risque des patients à un certain âge? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et il faut développer la prévention, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite, ici, maintenant, et il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci infiniment pour cette excellente et passionnante présentation. Alors, juste quelques minutes d'échange avec nous. Je vais juste vous poser déjà une question. Il me semble, si je ne m'abuse, qu'il n'y a pas de corrélation entre l'étendue des plaques d'amyloïdes dans le cerveau et les signes cognitifs. Est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose qui pose problème?
Alors, c'est en partie vrai, effectivement. Disons que les anomalies tau sont mieux corrélées au déficit clinique, au déficit cognitif, que les pathologies amyloïdes. C'est un argument de ceux qui tenaient la thèse du tau. Mais aujourd'hui, de toute façon, on sait bien que c'est les deux qui sont en jeu.
Mais ce que je veux dire, ça ne peut pas indiquer traiter quelqu'un sur la base de beaucoup de plaques, alors qu'il est susceptible d'avoir finalement peu de signes. Ça ne pose pas de questions, des questions, je dirais, éthiques.
Tout dépend effectivement du risque. Et aujourd'hui, en effet, on ne va pas s'amuser à traiter sur la seule présence d'amyloïdes sans preuve que ça rend service.
Sans vraiment signe clinique vraiment clair.
Mais c'est une question qui se posera, parce que si on a des produits actifs et sans risque,
qu'est-ce qu'on fera dans ce cas-là?
Eh bien, probablement, il faudra traiter de façon préventive.
Oui, je vous le passe tout de suite. Allez-y, prenez-le.
Bonjour.
Je vous le tiens, allez.
Je reviens sur le blocage de l'Union européenne sur les produits disponibles aux États-Unis. Je présume que c'est pour des raisons budgétaires.
Non.
Alors, la question est...
En France, oui.
Je ne prononcerai pas.
C'est pas
il n'y a
critère,
pas que la France. Hein. Il y a
oui.
beaucoup de monde qui... ça existe. Alors, à titre anecdotique, justement, il y a eu, à ce fameux congrès que j'ai suivi en ligne, il y a eu un économiste de la santé qui est intervenu et qui avait fait justement une évaluation du coût. Et le coût est évalué traitement aux États-Unis, coût du traitement aux États-Unis. Surveillance IRM, prise en charge, traitement, administration IV, etc. Ils évaluaient le coût à 100 000 euros par an par personne. Et ils disaient évidemment que c'était très au-dessus de ce qui était admis par les autorités habituelles de santé.
Quand on voit que le nombre de malades progresse énormément.
On est sur une...
Alors, oui, vous avez raison. Alors, deux petites remarques quand même. Je crois qu'il serait raisonnable de toute façon de restreindre l'indication aux patients pour lesquels le risque est moindre, parce qu'on augmente d'autant le rapport bénéfice-risque. Hein. Si on prend des patients qui ne sont pas à risque parce qu'ils ne sont pas d'anticoagulants, parce qu'ils n'ont pas un gène connu comme étant un risque de saignement, etc., voilà, on réduira considérablement le risque. Et mais donc, le bénéfice-risque sera meilleur.
Les complications étaient relativement graves quand même. Alors, hein, des œdèmes chez des patients peu atteints, donc on comprend un petit peu les réserves quand même, sans vouloir défendre l'Agence européenne.
Mais effectivement, mais il y a une surveillance IRM très régulière, et donc il y a beaucoup d'œdèmes qui étaient finalement peu symptomatiques ou pas symptomatiques du tout.
Mais quand il y en a, c'est gravissime, et chez des patients qui n'ont pas de signes cliniques graves. Oui.
Pas de signes cliniques graves, si, ceux-là étaient malades.
Oui.
Oui, bonjour. J'ai une remarque qui est... Alors effectivement, il y a cette question du coût. Mais ma remarque, elle est surtout sur le fait que les études que vous avez montrées, la méta-analyse, puis la diapositive suivante, avec comparaison d'un placebo versus je ne sais plus quel produit, du point de vue statistique, l'avantage n'est pas très important, puisque dans l'une des méta-analyses, en fait, ça se recoupe avec le résultat attendu, et dans l'autre, les intervalles de confiance se recoupent. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a un réel bénéfice. Mais peut-être que la difficulté vient de ce que vous avez dit initialement, c'est-à-dire que des patients inclus n'étaient pas tous formellement des patients atteints de maladies d'Alzheimer. Donc probablement
mauvaise sélection
affaiblit la probabilité d'avoir un résultat positif. Ma deuxième remarque était une remarque qui est la stratégie que vous avez montrée où on va vers... prise en charge en allant de plus en plus en amont.
Mmh.
Et en fait, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé pour le cancer si on regarde sur le temps. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, on s'occupait des tumeurs très avancées, puis des tumeurs moins avancées, et actuellement, on fait du dépistage, on fait du diagnostic très précoce, il y a des traitements très précoces. Donc ma remarque était celle-là, c'est est-ce qu'on ne se dirige pas vers une stratégie équivalente ?
Merci.
Sur votre première remarque, bon, effectivement, donc c'est vrai que sur les critères... Alors le CDRSB, c'était le critère principal, donc c'était quand même... finalement, l'étude est positive. Et en fait, si les patients étaient sélectionnés avec des critères biologiques dans ces études modernes, moi, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, comme je disais, 18 mois... de traitement après 20 ans d'évolution, on ne peut pas attendre un bénéfice extraordinaire. Donc il faudrait effectivement avoir des données à long terme. Je trouve tout à fait légitime que les autorités européennes disent « montrez-les-nous ». Enfin, ils ne l'ont peut-être pas dit comme ça, formulé comme ça, mais on ne peut pas non plus donner une approbation sur des espoirs seulement. Sur votre deuxième remarque, tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, c'est pertinent. Enfin, j'essaie de le montrer qu'il fallait traiter tôt. Et c'est plus logique, ce sera plus efficace, et c'est ce qu'on cherche à faire finalement.
Ouais, mais là, on est sur des médicaments sur le cerveau. Donc, monsieur parlait du cancer. C'est vrai qu'entre une petite opération pour un cancer du sein ou une... Là, on arrive à des traitements sur le cerveau, donc avec malheureusement des effets indésirables beaucoup plus graves à attendre. Enfin, et oui, dans le dépistage, on est obligé d'en tenir compte.
Cela dit, c'est aussi... effet indésirable, c'est avec ces médicaments-là tels qu'ils sont aujourd'hui. Mais
oui, oui, bien sûr. Pourquoi pas demain ?
Je n'ai pas élaboré, mais il y a une de ces molécules... qui a donc un anticorps classique auquel le laboratoire ajoute une portion qui va lui permettre de traverser le vaisseau sans atteindre l'amyloïde qui est déposé dans le vaisseau. Parce qu'on pense que ces saignements, ces œdèmes sont liés aussi justement, je ne peux pas tout développer, mais sont liés justement à cet amyloïde déposé près du vaisseau qui fait que ça saigne, qu'il y a l'œdème, etc. Et donc, en effet, ce traitement pourrait avoir moins d'effets indésirables. Donc là aussi, on va agir, hein, on aura des meilleurs traitements. Donc faut pas non plus, faut pas fermer la porte en disant on n'aura jamais rien. Si, on a des choses et on va avancer peu à peu encore.
Madame ou monsieur, je ne sais plus, madame, pardon. Oui.
Yatine d'Alzheimer, pardon.
Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'atrophie de l'hippocampe, donc la zone impliquée dans la mémoire, et...
Alors, oui, bien sûr. Atrophie de l'hippocampe, ça va avec trouble de la mémoire et ça va souvent avec maladie d'Alzheimer. Mais il y a aussi une autre maladie qu'on a identifiée plus récemment, qui est plus bénigne, qui s'appelle le LAAT. Bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est que ce nom compliqué, mais enfin, et qui est une anomalie qui survient avec l'âge, qui s'accompagne de la maladie de l'hippocampe, de troubles de la mémoire, mais qui évolue moins vite que la maladie d'Alzheimer. Donc, ce n'est pas synonyme. Et en effet, on regarde, quand on fait un diagnostic de patient en trouble cognitif, on regarde une coupe de cerveau qui monte bien à l'hippocampe et il y a une gradation, on dit, stade Selten, 1, 2, 3, et voilà. Et c'est quelque chose qu'on regarde et qui est un aliment pour dire qu'il y a peut-être un Alzheimer quand même.
On découvre de plus en plus de choses. Oui, derrière, madame.
Oui, bon, je ne m'exprime pas très bien en français.
C'est pas grave, on vous a déjà compris.
Mais il y a des généralistes qui pensent que le médicament de paroxétine, qui agit pour les synapses, parmi les jeunes, et peut être un risque pour Alzheimer ou d'autres troubles comme en vieillissant. Et d'autres qui pensent que non, il n'y a pas. Est-ce que c'est une rumeur dedans ou est-ce qu'on sait quelque chose en réel? Je pensais les gens qui prennent à jeune date, les 40, 30, 40 ans, et continuer longtemps.
Oui, alors on rappelle ce que c'est ce médicament qu'évoque madame, c'est le déroxate, un antidépresseur.
Voilà,
c'est ça, très, très prescrit.
Alors,
comme facteur de risque.
Je ne connais pas spécifiquement la question paroxétine. La question antidépresseur, c'est souvent un sujet évoqué en disant les gens qui ont reçu un antidépresseur sont plus à même de développer l'Alzheimer. Ce n'est pas prouvé. Et il y a des facteurs confondants, comme souvent en épidémiologie. Hein. Est-ce qu'ils ont reçu la paroxétine parce qu'ils étaient déprimés et que la dépression était un premier signe d'Alzheimer? Ou est-ce que, c'est l'œuf et la poule? Pour l'instant,
qui dit dépression, moins d'interaction sociale, plus d'isolement. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des biais, comme on dit.
Et on sait que la dépression, au début de la maladie d'Alzheimer, peut être un symptôme. Donc voilà, c'est intriqué. On n'a pas encore démêlé la pelote.
Justement, peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a des dépressions qui peuvent être confondues avec des maladies d'Alzheimer?
C'est souvent, enfin, c'est le contrôle.
Peut-être les psychiatres.
C'est plus la question que moi, mais on peut dire que oui. Enfin, c'est une question qui se pose devant un nouveau patient qui va pas bien, et on se pose la question est-ce qu'il est déprimé ou est-ce qu'il a une maladie neurocognitive?
Oui. Vous voulez dire un mot, peut-être nos deux psychiatres?
Oui, merci. Maladie. Enfin, est-ce qu'il a une dépression, une maladie neurocognitive? Mon avis est que la dépression vient du cerveau. De la même façon que les maladies neurocognitives, et qu'il y a des signes de la dépression qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer.
On ne peut pas confondre les deux diagnostics.
Mais bien sûr qu'on peut.
Hein?
Oui, on peut il peut y avoir des interactions entre, et c'est tout le travail de ce que vous avez évoqué des centres mémoire, justement, de désintriquer ces choses-là et de voir si c'est plutôt ça va dans le sens de la dépression ou le sens de la maladie d'Alzheimer. Mais la deuxième chose quand même, c'est que quand on a peur d'avoir une maladie d'Alzheimer, on peut avoir des réactions émotionnelles qui sont de l'ordre des affects dépressifs, et malheureusement on peut avoir les deux à la fois.
On reviendra. Je demande aux organisateurs une dernière question, deux dernières questions, monsieur et monsieur. Voilà, parce que et madame.
J'ai une question. Alzheimer, c'est les cerveaux qui est concerné, qui est touché en quelque sorte. Est-ce qu'il existe un traitement pour protéger les cerveaux ou bien, à part l'hygiène de vie, est-ce qu'il existe un traitement pour l'Alzheimer pour protéger les cerveaux?
Alors, de vrais médicaments qui protègent.
Aujourd'hui, on peut dire que non, si vous voulez. C'est vraiment la prévention, c'est ce qu'on a dit, c'est des préventions assez générales. Des traitements spécifiques, ils sont en développement, il y a des choses qui se passent, il y a des produits qui sont enregistrés aux États-Unis dans cet objectif-là, pas encore disponibles.
Mais est-ce que peut-être indirectement, par rapport à ce que dit monsieur, prendre des antihypertenseurs quand on est tendu, des antidiabétiques ou des, lutter contre le poids, peut avoir des effets préventifs indirects?
Tout à fait. Traiter l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est une clé importante et à notre disposition aujourd'hui, il faut le faire.